Saad Duhamel avec ce soir Pablo Pillot, Vivien de la revue Regard. Bonsoir Pablo.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Alain Duhamel.
Bonsoir.
Nous sommes à l'avant-veille d'une nouvelle journée de mobilisation. Voilà CGT Énergie aussi qui est à la manœuvre, réalise quelques actions spectaculaires de coupure d'électricité en demandant toujours le retrait de la réforme. Et franchement Alain, y a-t-il encore quelqu'un aujourd'hui pour croire au retrait de cette réforme des retraites ?
Un Français sur trois, c'est-à-dire une minorité. On sait bien que trois Français sur quatre sont farouchement opposés à cette réforme des retraites, mais qu'il y en a deux sur trois qui pensent qu'elle se fera quand même, donc qu'il n'y aura pas de retrait. C'est ça que ça veut dire, en clair. Alors, parmi ceux-là, y a évidemment ceux qui font des blocages, qui sont quand même pas très nombreux, ceux qui font grève, qui sont, disons, moins nombreux qu'en d'autres circonstances comparables, ceux qui défilent, qui, eux, sont nombreux, nombreux, mais pas toujours optimistes pour autant. Et puis voilà, et en revanche, pensant que ça ne va pas être retiré, y a deux Français sur trois qui pensent que ça va quand même s'appliquer. Et ce qui est peut-être plus intéressant, si l'ensemble des intersyndicales, toutes les directions des syndicats ont demandé à être reçus par Emmanuel Macron, c'est parce qu'ils se rendent bien compte que, en fait, ça ne va pas être retiré et qu'ils cherchent une dernière démarche pour le convaincre de retirer. Mais celui qui est le plus malin de tous chez ceux-là, c'est-à-dire Laurent Berger, lui, il est déjà à la phase d'après. Comme ça ne sera pas retiré, il essaye d'obtenir que ça soit censuré ou pas voté. Ou voté par le 49-3 en se disant que peut-être, on ne sait jamais, à ce moment-là, ça peut redémarrer.
Alors, il faut faire attention aux termes qui sont utilisés.
Pablo, vous y croyez, vous ?
Alors,
au retrait ?
Alors, au retrait, je n'y crois pas. C'est-à-dire qu'effectivement, je vois mal pourquoi le gouvernement, l'exécutif, déciderait du jour au lendemain.
Ça sert à quoi de manifester ?
Et parce qu'il n'y a pas que le retrait. Il y a aussi le vote à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est pas un retrait. Oui. C'est juste que l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le Parlement, la représentation nationale, décide en son âme et conscience de ne pas voter
Ce qui compte, c'est faire pression sur les députés qui hésitent.
Exactement. Et là, on voit que ça commence à branler dans le manche.
C'est pour ça qu'on défile ?
Moi, je pense que oui. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a des défilés. Et là, on voit qu'il commence à y avoir des gens qui
commencent à y croire. C'est quoi cette expression, branler dans le manche ?
Branler dans le manche, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire que du côté à la fois de la majorité, du côté bien sûr des LR, on connaît la position d'Aurélien Pradier et de quelques autres autour de lui à l'Assemblée nationale, il y a une volonté de pas forcément faire passer ce texte.
Il y a une volonté très ferme de ne pas le faire passer.
Exactement.
Enfin, il y aura 49-3.
Il y aura un 49-3, ce qui pose un problème, ce qui commence en fait à poser un sérieux problème institutionnel et démocratique, c'est-à-dire que le texte n'aura pas...
Institutionnel, non. Démocratique, on peut en discuter. Démocratique, on
si
peut
vous
en
voulez.
Discuter. Institutionnel,
c'est
non.
Prévu.
Mais non seulement c'est prévu, mais c'est fait pour ça.
Vous avez partiellement raison.
On va voir ce que dira
le Conseil constitutionnel.
Il y aura
la moitié des articles qui n'auront pas été examinés par l'Assemblée nationale. Il y aura un 49-3. Et au bout d'un moment, il commence à y avoir un problème.
Non, c'est pas un problème. Enfin, il y a une solution qui est évidente. C'est que si se passent les choses comme vous le dites, à ce moment-là, s'il y a un certain nombre d'articles qui effectivement ne correspondent pas à la vocation financière du texte, à ce moment-là, il y aura une loi complémentaire.
D'accord. Mais dans ce cas-là, ça veut dire à nouveau des débats.
Oui. C'est bien pour ça que je dis que, un, les institutions sont faites pour ça, le 49-3 est fait pour ça. D'ailleurs, le général de Gaulle, qui connaît quand même un peu cette constitution, puisque c'est la sienne, avait dit clairement que c'était justement fait le 49-3 pour le cas, et il pensait à la 4ème République, où on n'arriverait pas à sortir une majorité d'elle-même. Et donc, à ce moment-là, il fallait le 49-3. Donc, il y a le 49-3.
On peut aussi dire la majorité d'elle-même, comme vous dites, elle peut se trouver en réaction contre le texte et en opposition au texte. Ce sera aussi une majorité qui peut exister dans l'Assemblée nationale.
Mais moi, je ne dis pas que le texte va passer comme une lettre à la poste. Je ne dis pas ça du tout. Je dis, puisque c'était la question qu'on me posait, ça ne va pas être, le texte ne va pas être retiré, et qu'il faudra au dernier moment voir s'il peut passer, ce qui serait évidemment souhaitable, passer après un vote normal, ou si il faut en arriver au 49-3, ce qui est évidemment un pis-aller pour tout le monde, et en particulier pour Elisabeth Borne, qui en a fait son objectif de l'éviter, le 49-3.
Ce qui ressemblerait aussi à une sorte de suicide politique, pour le gouvernement, parce que ça va exciter absolument tout le monde, dans un premier temps les syndicats, dans un deuxième temps les manifestants, et dans un troisième temps tous ceux qui sont opposés à la réforme.
Il n'y a pas d'élection prévue tout de suite.
Le problème, quand le président Macron
ne se représente pas, c'est son dernier mandat.
Si vous écoutez tout à l'heure, Alain citait Laurent Berger, il a dit sur France 5, il a dit franchement quand la réforme passe, moi je sais pas ce que je vais faire avec mes adhérents, hein, parce que ils vont estimer que leur mobilisation massive en fait ne sert strictement à rien, et donc après il se passera ce qui se passera, mais ça peut être très dangereux démocratiquement.
Y a-t-il un risque réel que le texte ne passe pas?
Oui, il y a un risque. Moi, je pensais, il y a un mois, quand on commençait à en parler, qu'il y avait 8 chances sur 10 pour qu'il passe. Aujourd'hui, je pense qu'il y a 50 chances sur 100. C'est pas la même chose. Il y a une opération Pradier-Berger. Elle existe. Politiquement, de la part de Berger, c'est plutôt malin. Hein, c'est de se dire, si, puisque le texte ne sera pas retiré, il faut essayer d'empêcher qu'il passe par les voies normales et se dire, après, on ne sait pas ce qui peut se produire. Bon, là, pour être sincère, d'ailleurs, on est censé être sincère ici. Hein, donc,
on compte sur vous.
Oui, pour être sincère, l'idée selon laquelle le texte passerait même par 49-3 et que brusquement ça impliquerait une deuxième vague de grandes manifestations, etc. J'y crois pas beaucoup parce que les Français seront résignés à ce moment-là. C'est d'ailleurs pour ça que 2 sur 3 pensent déjà que ça ne sera pas retiré. En revanche, si la plupart de ceux qui sont hostiles à cette réforme la voient voter et sont découragés, il peut y avoir des phénomènes très minoritaire, mais très spectaculaire à ce moment-là, de radicalisation.
Alors, vous parlez de minorité, je vais vous renvoyer à une étude qui a été faite par un collectif de chercheurs qui s'appelle Quantité Critique et qui a publié une tribune dans Le Monde il y a 2 jours. Dans leur étude, ils disaient, voilà, il y a à peu près 15% des Français qui ont défilé un jour ou 2 jours contre cette réforme des retraites, donc 15% des actifs, qui ont manifesté ou qui ont fait grève.
Oui, parce que j'ai lu
c'est
le
très
papier
important.
Aussi.
Exactement. Donc, c'est 15% des actifs. Et ce que disait le papier, qui est très intéressant, c'est qu'il disait qu'il y a un réservoir, en fait, de 20% des actifs qui ont envie, en fait, de se mobiliser, mais qui n'ont pas encore fait. Donc, il y a un réservoir de mobilisation. Et ça, je le dis parce que il reste des journées de mobilisation. Il y a d'abord la journée de mobilisation samedi, et il y a des journées avant la CMP et donc avant le vote à l'Assemblée nationale.
Mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, c'était la journée de la jeunesse, il y a un défilé des jeunes. On peut pas dire que c'est l'embrasement du monde de la jeunesse. Il y avait quelques centaines de manifestants. Moi, j'ai connu des manifestations de jeunes où il y avait des dizaines de milliers.
Non, ça ne prend pas auprès de la jeunesse.
J'en ai connu aussi.
Bon, alors que c'était une des hypothèses quand même.
Le blocus challenge de Louis Boyard est un échec.
Et il y a des actions comme celles qu'on voit à Stade de France ou Jeux Olympiques, ce qui n'est pas forcément malin, mais ça c'est autre chose, et qui n'est en tout cas pas légal, mais elles sont très rares pour l'instant. Là où elles peuvent se produire, c'est si le texte passe au 49-3, je répète, je pense qu'à ce moment-là, la majorité de l'opinion sera furieuse, mais résignée, à ce que ça entre en vigueur. En revanche, là, il peut y avoir des phénomènes de radicalisation. On a déjà connu ça. Hein.
Alain, vous voyez bien que tout à l'heure, vous avez fait référence à ce que vous disiez il y a un mois. Il y a un mois, on était déjà là sur ce plateau et vous disiez déjà « Oh, les Français sont résignés. De toute façon, vous verrez, il n'y aura même pas grand monde dans la rue. »
Non, je n'ai jamais dit ça.
Ni peu ni prou. Mais moi, je vais vous dire, les Français ne sont pas résignés. Et les gens qui manifestent ne sont pas résignés. Et donc, vous avez 3,5 millions de gens qui ne sont pas résignés. Alors peut-être que vous me dites des sondages qui sont faits sur l'ensemble de la population française. Peut-être que sur l'ensemble de la population vous avez plus de la moitié des Français qui sont résignés et pas dans les 3,5 millions. Mais ça, c'est un problème. Qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'écoute de la part du gouvernement de ces gens qui ne sont pas résignés et qui veulent le retrait de la réforme.
Je ne dis pas que les 2/3 des Français sont contents de ce qui se passe. Je dis que ils anticipent le fait que la réforme sera mise en œuvre. C'est la réalité,
ça. Est-ce que c'est vrai, messieurs, que finalement, Mme Borne, effectivement, voudrait un vote à l'Assemblée ?
Un vote normal.
Un vote normal, mais que finalement, Emmanuel Macron s'est résigné et que si ça passe par 43...
Non, Emmanuel Macron, de toute façon, il y a vraiment toujours eu un objectif commun, mais deux lignes différentes. Elisabeth Borne était pour discuter, négocier, améliorer, disons, arrondir. Et Emmanuel Macron a toujours été pour dire ça sera extrêmement difficile et donc de toute façon c'est pas la peine de faire trop d'accommodements, ça passera, ça ne plaira pas, mais il faut le faire. Voilà, ça c'est sa théorie.
Je pense qu'on a un problème aujourd'hui de rapport de notre gouvernement à la démocratie et à la démocratie institutionnelle. J'ai regardé en fait ce qui s'était fait en 2010. J'ai fait une revue de presse. Il y avait une grande aussi réforme des retraites qui était proposée par Nicolas Sarkozy, hein, le passage de 60 à 62 ans.
Qui ressemble à cette réforme-là.
Et qui ressemble à cette réforme-là, exactement. Et à ce moment-là, Nicolas Sarkozy, effectivement, il s'était lancé dans un bras de fer avec les syndicats, mais, et c'est très important, à peu près toutes les trois semaines, lui ou Raymond Soubi, qui était son conseiller spécial... Comment ça, ça n'a rien à voir?
Non, un conseiller, ça n'a rien à voir avec le président de la République.
Je suis complètement d'accord. Qui sont les conseillers? Non, mais Alain, qui sont les conseillers aujourd'hui qui reçoivent
l'intersyndicale et pas l'Élysée?
Exactement, non, mais... au patron de la CGT ou au patron de la CFDT. En 2010, c'était le cas. Raymond Soubi, il passait son temps dans les médias à expliquer. Non, mais attends, voilà, j'ai eu Bernard Thibault, voilà, j'ai eu Jean-Claude Mailly. Mais c'est ce qu'il écrit. Et j'ai même vous dire, attendez, dernière chose.
Nicolas Sarkozy, j'étais plus pour le dialogue social qu'Emmanuel Macron.
Eh bien, je crois que oui, et j'aimerais juste finir là-dessus.
Vous le racontez, moi je l'ai vécu. Alors, oui. C'est pas la même chose. Et je me rappelle très bien.
Je l'ai vécu aussi pour le coup.
Je me rappelle
pas si j'étais dans la rue.
Probablement pas de la même façon.
Exactement. Parce moi j'étais dans la rue.
Je pense pas que vous parliez beaucoup avec Raymond Soubi.
Ah non.
Bon, bah voyez.
Différence. Raymond Soubi venait sur les plateaux, c'était un conseiller social qui était connu. À l'Élysée, on est incapable de dire qui s'occupe de ce dossier.
Non, merci. Mais. Je répète ce que je vous disais. Je pense qu'il y a un objectif commun qui est de faire passer cette réforme et qu'il y a deux méthodes qui sont parallèles et en partie concurrentes. Celle d'Elisabeth Borne qui est d'essayer de passer en gros, je simplifie évidemment, en arrondissant, en douceur, et celle d'Emmanuel Macron qui est de dire de toute façon on ne convaincra pas les syndicats, ce qui je crois d'ailleurs est la réalité, on ne les convaincra pas, et comme on ne les convaincra pas, eh ben allons-y, prenons les risques et ça passera.
Est-ce qu'on est inquiet quand même?
Mais bien sûr.
Ou pas?
Mais bien sûr.
Dit, c'est la tempête, c'est normal. À chaque fois qu'il y a une réforme des retraites ou une réforme sociale, c'est comme ça que ça se passe. On fait le dos rond, on attend que l'orage passe et puis dans un mois, on sera passé à autre chose.
Non, être responsable d'un pays dans les circonstances dans lesquelles on est avec l'Ukraine, l'inflation et la réforme des retraites, je veux dire, pour ne pas être inquiet, il faudrait être inconscient. Donc, bien sûr qu'ils sont inquiets. Est-ce que ça veut dire que pour autant la réforme de la retraite va être retirée? Évidemment non. Est-ce que ça veut dire que puisqu'elle sera partirée, elle passera? Eh ben il faut voir, je répète, 55%.
On verra. Merci Pablo Piovivien, merci Alain Duhamel.